Bonjour à tous, je suis Fabien Lombard et je travaille au laboratoire de scénographie de Villefranche-sur-Mer, qui se situe à côté de Nice, et donc à Villefranche-sur-Mer. Et je vais vous parler essentiellement aujourd'hui de la structuration des écosystèmes planctoniques, donc de tous ces organismes que l'on trouve dans la mer et qui flottent et qui se laissent emporter par les courants. Et notamment, comment est-ce que l'étude de ces écosystèmes nous ont permis de montrer que l'essentiel de ces écosystèmes sont dominés par des prédateurs à l'échelle relativement globale. Je vais tout d'abord expliquer qu'est-ce que c'est que la structure d'un écosystème. Je vais ensuite exposer quels sont les différents types de structures des écosystèmes et comment est-ce qu'on peut étudier ces structures à l'aide de différentes métriques. Je vais enfin aborder le sujet de savoir quelle est réellement la structure des écosystèmes et surtout la structure trophique des écosystèmes dans l'océan. Et enfin, je vais montrer comment est-ce que l'utilisation d'imagerie quantitative lors des expéditions Tara Océan nous a permis d'étudier la structure trophique de tous ces écosystèmes. Et de montrer comment est-ce que cette structure est en lien avec la structure fonctionnelle des différents types d'organismes planctoniques. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la structure d'un écosystème? Quand on regarde un écosystème, ici c'est l'exemple d'un écosystème corallien, quand on veut essayer de déterminer une structure dans cet écosystème, eh bien on peut l'établir de différents moyens. Alors, on peut se rendre compte qu'ici, on a beaucoup de poissons de type orange, on a assez peu de gros poissons, on a beaucoup d'organismes qui sont fixés au corail, certains poissons nagent, d'autres sont plutôt cachés dans le corail. Bref, il y a pas mal de choses à étudier. Et au final, quand on étudie la structure d'un écosystème, on va essayer d'étudier un degré d'organisation ou d'auto-organisation de tous les acteurs de cet écosystème. Et là, on voit bien sur cet exemple d'image qu'on est en peine de trouver un facteur à étudier et qu'il va falloir étudier plusieurs facteurs, souvent de manière conjointe. Et on retrouve la même problématique, par exemple, si on veut étudier la structure d'une population telle que la population française, où on peut chercher à étudier qui est là, combien sont-ils, quelle est la proportion de personnes habillées d'une certaine manière, etc. Et ce sont des études que l'on sait faire assez facilement d'un point de vue population. Si par exemple je prends l'exemple de la structure de la population française, eh bien on peut l'étudier de manière assez simple, par exemple via ce qu'on appelle la pyramide des âges. Et là, c'est un exemple de pyramide des âges où on va séparer dans deux catégories la population française, avec d'un côté les populations masculines et féminines, et regarder leur nombre en fonction de leur âge. Et donc là-dedans, on peut déterminer un certain nombre d'informations, on va trouver des creux, des bosses, des proportions qui sont plus ou moins larges, et on peut éventuellement le disséquer un peu plus en amont pour, par exemple, sortir d'autres informations sur cette pyramide. Et là, par exemple, on va pouvoir, via les différentes couleurs qui sont affichées ici, sortir la proportion des personnes non mariées, mariées, divorcées, voire même veufs. Et on peut se rendre compte qu'on a un certain nombre de caractéristiques qui peuvent ressortir. Alors, on peut étudier d'autres caractéristiques, par exemple, telles que la proportion d'argent qui va être dépensée ou gagnée d'une certaine population. Mais tout ça, c'est pour vous montrer qu'en fait, via une population, il y a beaucoup de manières d'étudier cette structuration et tout est une question, au final, d'abstraction. C'est-à-dire qu'il n'existe pas une structure, mais de multiples structures qu'on peut étudier dans un écosystème, suivant la caractéristique qu'on va étudier préférentiellement. Alors, lors des différents cours de Chris Bowler, on a vu qu'on pouvait étudier énormément les écosystèmes à travers leur structure taxonomique, voire même la diversité. Mais il existe d'autres niveaux de structuration que l'on peut étudier, tels que, par exemple, la structure des fonctions qui sont présentes dans un écosystème, ou la structure des biomasses, voire même la structure des différents niveaux trophiques. Ou enfin, on peut aussi regarder la structure de différents traits telles que par exemple la taille des organismes, le fait qu'ils ont un certain degré de transparence ou de couleur ou autre. Donc comment est-ce qu'on... Et moi, je vais essentiellement donc étudier l'écosystème planctonique via trois formes, à la fois en étudiant la fonction, la biomasse et les niveaux trophiques. Donc quand, et comme je vous l'ai dit, on est obligé d'utiliser une certaine forme d'abstraction, telle que la pyramide des âges, pour essayer de sortir une métrique qui va nous permettre d'étudier cette structure plutôt que d'être noyé dans les différentes informations qui sont présentes dans l'écosystème. Donc en termes d'abstraction, une des premières formes d'abstraction qui existe est la structure, la pyramide des nombres, qui a été introduite par Charles Sutherland Elton en 1927 et qui a déterminé au final que plus on allait avoir des organismes gros, plus leur abondance diminue. Lors des premières observations de Elton, ces observations ont été essentiellement faites sur des animaux de montrer que plus on regardait des animaux petits, tels que les insectes, plus ils vont être nombreux, et que cette structure est certainement due au fait que les proies sont généralement plus petites que les prédateurs. C'est-à-dire que quand on veut manger quelqu'un, il est plus facile de manger quelqu'un petit que quelqu'un grand. Alors, cette pyramide des nombres est admirablement illustrée et introduite dans l'ouvrage de Elton, par un petit proverbe chinois qui dit qu'une colline ne peut accueillir deux tigres. Et évidemment, cette même colline peut accueillir beaucoup plus de lapins. Ce principe, au final, si on prend l'exemple de deux types d'écosystèmes, tels que l'écosystème des lapins qui vont manger un végétal quelconque et qui vont être aussi mangés par des lynx, et quand on étudie cet écosystème à l'aide des pyramides des nombres, on va avoir un écosystème qui, naturellement, va avoir une forme pyramidale avec une large base. Par contre, quand on étudie un autre type d'écosystème, par exemple les pucerons qui vont pousser sur un rosier et qui vont se faire manger par une coccinelle, on peut voir apparaître une structure en nombre inversé, tout simplement parce qu'on a des brouteurs ou des consommateurs, qui sont les pucerons, qui sont plus petits que leurs plantes mères et donc qui vont dépasser celles-ci en termes de nombre. Et c'est pour ça que dans les écosystèmes terrestres, les organismes les plus nombreux sont généralement des insectes qui, eux, vont se nourrir sur des plantes. Par contre, on peut regarder ce même écosystème à l'aide de ce que l'on appelle la pyramide de biomasse, qui a été introduite par Bodenheimer en 1938, où plutôt que de regarder l'abondance, donc le nombre d'organismes, on va regarder leur masse, leur biomasse. Et quand on regarde l'écosystème de cette manière-là, en général, les écosystèmes, en tout cas terrestres, vont reprendre une forme qui est pyramidale, quel que soit le système, c'est-à-dire que les pucerons, même s'ils sont nombreux, ne vont pas représenter une masse très importante comparativement à la masse du rosier. Et idéalement, la meilleure représentation est celle en pyramide trophique énergétique, telle qu'elle a été introduite par Hutchinson et Lindemann, c'est-à-dire en comptant la quantité d'énergie qui passe pour un instant donné, c'est-à-dire combien d'énergie par jour un organisme reçoit et perd. Et évidemment, cette manière de regarder l'écosystème est assez compliquée, parce qu'on est obligé de regarder l'énergie et les flux, et c'est assez difficile de le faire quand on a un échantillon fixe donné d'un écosystème. Donc, ce point de vue est resté assez fixé pendant un assez long moment, a progressivement été perdu, ou en tout cas de moins en moins considéré par rapport à l'émergence des réseaux trophiques. Par exemple, si je vous présente ici le réseau trophique que l'on peut retrouver dans l'océan, on va avoir affaire à toute une multitude d'organismes. Et tous ces organismes, au final, plutôt qu'avoir une proie unique, vont se nourrir aussi d'une diversité de proies. C'est-à-dire qu'un organisme donné va avoir peut-être 4 ou 5 types de proies différentes. Et donc, on va avoir l'émergence du fait que un niveau trophique va pouvoir se nourrir de plusieurs niveaux trophiques inférieurs. Et également est apparu de plus en plus le concept de la mixotrophie, ou en tout cas de la diversité alimentaire, c'est-à-dire qu'on va avoir des organismes qui ne sont plus uniquement phototrophes, c'est-à-dire qui vont faire de la photosynthèse, mais on a certains organismes qui font de la photosynthèse, mais qui vont également manger des proies. On a des organismes qui sont purement brouteurs, d'autres qui sont brouteurs, mais qui vont aussi manger d'autres brouteurs. Enfin, on a des prédateurs, des super prédateurs, etc. Donc, tous ces concepts de diversité des proies et de diversité des stratégies alimentaires ont fait que progressivement, l'étude de ces pyramides trophiques ou de pyramides alimentaires sont devenues de plus en plus difficiles et ont été remplacées par un autre type d'abstraction qui prend au final naissance dans ce concept de pyramide énergétique ou pyramide de biomasse, mais qui regarde ce concept, je dirais, de manière différente, qui regarde ce concept en termes de taille, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les organismes en fonction de leur taille et on va étudier leur abondance. Et au final, quand on regarde une pyramide trophique, il suffit de regarder cette pyramide trophique de manière inversée et on va retrouver ce spectre d'abondance. Et si on a de multiples niveaux trophiques, tous ces niveaux trophiques vont éventuellement se retrouver dans ce concept de pyramide de taille. Et évidemment, si on prend tout en échelle logarithme, on va obtenir une droite. Et donc, énormément d'études se sont penchées sur l'étude de la pente de cette droite, qui va avoir beaucoup d'interactions, qui va avoir beaucoup d'intérêt dans l'étude des communautés marines, et c'est surtout en milieu marin que cela est étudié, tout simplement parce qu'on va retrouver cette loi à tous les niveaux d'organisation, depuis le phytoplancton jusqu'aux baleines. Et l'étude de cette droite nous permet au final de couvrir tout le continuum des prédateurs et des proies de manière indifférenciée, sans forcément les classer en termes de niveau trophique. Et l'étude de la pente elle-même va nous permettre d'étudier l'efficacité du transfert énergétique. Une pente qui va être plus plate et donc qui dénote plus de gros organismes par rapport aux petites, va nous permettre d'approximer une meilleure efficacité de transfert énergétique, tandis qu'une pente plus abrupte veut dire qu'on a beaucoup de petits et très peu de grands, et donc on a une efficacité de transfert énergétique qui est très mauvaise entre les niveaux trophiques. De la même manière, d'un point de vue théorique, cette pente est censée refléter au final l'aspect de la pyramide trophique, avec d'un côté des pyramides à très large base et de l'autre côté des pyramides avec des sommets plus gros qui peuvent éventuellement arriver vers des pyramides inversées. Donc, de la même manière, cette structure, cette abstraction peut être regardée de différentes manières. On peut le regarder en abondance, comme je vous l'ai présenté. On peut le regarder en biomasse, en fonction toujours de la taille ou de la masse de l'organisme. Ou on peut normaliser cette masse pour revenir à une pente. Bon, ces différentes manières de regarder ces spectres d'abondance ou ces spectres de biomasse qui nous donnent au final le même niveau d'information ou presque. Et donc, une des grandes questions qui existent en océanologie, au final, c'est de savoir quelle est la structure trophique des pyramides trophiques que l'on trouve dans l'océan. Et là, on va trouver un peu tout dans la littérature. On va trouver des pyramides qui parfois peuvent ressembler à des pyramides inversées. On trouve énormément de pyramides qui sont avec une large base. Et par exemple, pendant très longtemps, dans les livres d'océanologie, on considère que le phytoplancton représente plus de 60% de la biomasse qui est présente au niveau océanique. Et donc, il y a une interrogation qui existe sur la forme de ces pyramides trophiques qui existe depuis quasi une trentaine ou une quarantaine d'années. Au point que sur certaines publications récentes, par exemple ça c'est une publication de 2013, qui explique qu'il trouve que les pyramides à large base devraient prédominer dans le monde réel et que les pyramides inversées indiquent uniquement une surestimation de l'abondance des prédateurs par rapport à ces proies. Et donc cet auteur-là retrace cet effet par rapport au fait qu'une pyramide inversée ne peut apparaître que quand on va avoir un rapport entre prédateurs et proies qui devient très important pour une efficacité de transfert énergétique importante. Et quand on regarde les acteurs de l'écosystème marin, que ce soit entre phytoplancton, zooplancton, poissons et même larges poissons, ceux-ci devraient se trouver dans un domaine qui représente des pyramides à large base. Alors bon, cette publication a fait pas mal réagir pas mal de monde, notamment sur le quoi. La grosse question au final qui existe derrière ça, c'est qu'on a très peu de données qui couvrent tous les niveaux trophiques ou un maximum de nombre de niveaux trophiques dans l'océan. Souvent, quand on part en mer, on va étudier le phytoplancton ou le phytoplancton et le zooplancton, mais étudier l'ensemble du spectre des organismes qui sont présents en mer est très difficile. Notamment parce qu'on va avoir toute une diversité de formes. Alors là, vous avez une diversité de formes représentées par des dessins, mais vous avez la même diversité de formes quand on les prend en photographie, depuis des organismes petits et ronds jusqu'à des organismes très gros, gélatineux. On a des copépodes qui sont des espèces de petits crustacés, des petites crevettes planctoniques qui vont se situer au milieu. Et donc, on a une très grande diversité. De la même manière, on a une énorme gamme de tailles qui est présente, ne serait-ce que dans le plancton. Et comme Chris Bohler vous l'a expliqué, on va avoir depuis les virus qui représentent un centième de micromètre jusqu'aux métazoaires, par exemple les méduses, qui vont faire plusieurs centimètres jusqu'à 1 mètre. On a la même différence de taille qu'entre une fourmi. Voire un brontosaure quand on regarde le petit zooplancton, ou même jusqu'à des tailles de montagne, ce qui fait qu'il est extrêmement difficile de récolter et d'étudier l'ensemble de l'écosystème d'un seul coup. Et donc là, c'est par rapport à ces données-là que Tara Océan prend toute son importance. Notamment par le fait que l'essentiel des organismes ont été échantillonnés depuis des tailles submicrométriques jusqu'à des tailles centimétriques. Et cet effort d'échantillonnage a cherché à la fois à qualifier l'écosystème via énormément d'études génomiques pour savoir qui est là, savoir leur nature, savoir leurs gènes, savoir quels gènes sont actifs. Mais également grâce à l'utilisation d'imageries quantitatives qui ont alors plusieurs types d'imageries quantitatives, parce que c'est très difficile de prendre une gamme de tailles aussi grande en photo d'une manière simultanée. Mais d'une certaine manière, on a réussi à capturer tous les organismes depuis 0,2 microns jusqu'à plusieurs centimètres de taille grâce à différents instruments d'imagerie. Et c'est des instruments d'imagerie quantitative. C'est-à-dire qu'on peut retracer l'abondance, mais aussi la taille de chaque organisme et donc leur biomasse. Et donc, les différents instruments qui ont été déployés couvrent à la fois des cytomètres en flux, qu'ils soient imageurs ou non imageurs. Donc, ça, c'est issu d'un cytomètre en flux imageur, de l'imagerie confocale, et différents autres instruments qui permettent d'étudier le phytoplancton, le zooplancton ou le très large zooplancton. Tout ça nous a permis d'obtenir quelque chose comme 8 millions d'images, et ces 8 millions d'images nous ont permis d'étudier l'ensemble du spectre de taille. Alors bon, réussir à classifier et identifier 8 millions d'images a été une large tâche que l'on a réussi à rendre possible grâce au développement d'un portail d'identification d'images qui s'appelle Ecotaxa, qui nous a permis donc de classifier toutes ces images via l'aide d'algorithmes de reconnaissance automatique. Et comme c'est un portail collaboratif, et il est dépositaire des images de Tara Océan, mais aussi d'images de plein d'autres collaborateurs qui l'utilisent actuellement. et on en est à plus de 144 millions d'images sur cette plateforme en ligne. Et la difficulté, une fois qu'on a identifié toutes ces images, alors ici je vous passerai mes noms des différents groupes planctoniques, mais chaque couleur est un groupe planctonique, et chaque imageur, au final, nous donne une vision de l'écosystème qui va être particulière. Quand on regarde par exemple avec l'imagerie confocale, avec la microscopie confocale, on va se rendre compte qu'on a un écosystème qui est essentiellement dans ces tons de vert, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de diatomées, on va avoir du nanoplancton, on va avoir beaucoup de dinoflagellés aussi qui sont ici en jaune. Quand on change de gamme de taille, on va voir apparaître d'autres classes planctoniques telles que ces bleus clairs qui sont des petits copépodes qui vont commencer à apparaître. Quand on change de filet et d'imageur, on va voir d'autres types d'organismes, ces bleus qui sont toujours les copépodes, ou aussi tous les tons de rose qui sont au final des gélatineux prédateurs ou filtreurs, et les roses fuchsia qui sont au final des crustacés, des grands crustacés. Et quand on prend des caméras in situ, on voit quelque chose d'autre. On voit énormément de ces jaunes qui sont des radiolaires, et au niveau des pôles, beaucoup de copépodes. Et bien entendu, quelques gélatines. Donc, il est très difficile d'obtenir une vision globale de l'écosystème sans réassembler tout ça. Et au final, on s'est servi de la théorie du spectre d'abondance pour assembler les différents jeux de données entre eux. Ici, on a différentes courbes qui sont issues de différents instruments à un seul site. Et quand on récupère toutes ces informations, on peut obtenir et combiner tout ça dans un spectre unique d'abondance ou de biomasse, puis éventuellement exploser cette biomasse totale en différents groupes planctoniques pour obtenir une vision globale de l'écosystème qui couvre depuis 0,2 microns jusqu'à plusieurs centimètres. Alors, on peut étudier aussi la nature trophique de cet écosystème, puisqu'on a un nom derrière chacune des images, on peut leur assigner un niveau trophique et reconstruire des pyramides de nombres ou des pyramides de biomasse. Et donc, c'est une méthode qui permet de multiplier les abstractions pour étudier à la fois et de manière conjointe les spectres d'abondance, de biomasse, de composition taxonomique et de pyramides d'abondance et de biomasse. La première chose comment dire, qu'on a trouvée, c'est qu'au final, entre les abstractions qui devaient être théoriquement semblables, telles que la pente de ce spectre et la forme des pyramides, on avait effectivement une correspondance, c'est-à-dire que là où la théorie nous disait que ces deux abstractions étaient similaires, c'est bel et bien la même chose que l'on observe. Alors, il y a une certaine variabilité, mais ça nous permet au final de regarder, et dans les différents types d'abstractions, à chaque fois, on a cette corrélation qui est importante, quel que soit le cas de figure, entre les différents types de données, sauf les données de métabarcoding, qui, elles, vont donner une vision un peu différente et qui potentiellement peuvent être biaisées par le biais d'amplification, au final. Alors, ça nous permet, au final, d'étudier la forme des spectres d'abondance ou la forme des pyramides de biomasse, et c'est quelque chose qu'on a pu faire à l'échelle globale. Alors ici, toute mon étude est séparée entre écosystèmes polaires, où on a pu mettre cette approche en place pour une gamme de taille depuis 0,8 micromètres jusqu'à plusieurs centimètres, et le reste du monde, où on n'a pas pu aller aussi petit en taille et où on s'est arrêté à 20 microns. Et on se rend compte au final que ce que nous donnent les spectres de biovolume ressemble énormément à ce que nous donnent les spectres de biomasse, et on a énormément de points qui sont jaunes ou rouge, c'est-à-dire qu'au final, on va avoir essentiellement des pyramides qui sont soit plates, soit inversées, que l'on les regarde en termes de spectre d'abondance ou pyramide trophique. Donc, on a un écosystème qui est essentiellement inversé et dans lequel les pyramides normales à large base sont relativement rares. Quand on regarde le reste du monde, on retrouve le même type d'information, puisque les pyramides inversées, ici depuis les tons jaunes jusqu'au ton rouge, sont essentiellement prépondérantes avec les pyramides plates. Et on a très peu de cas où on a des pyramides à large base. On retrouve la même chose quand on étudie l'écosystème à l'aide des pyramides de biomasse, où on a encore une vision encore plus dramatique en termes d'abondance. Et tout ça, au final, excusez-moi, et tout ça, au final, peut être relié avec la nature taxonomique que l'on va avoir dans les différents types d'écosystèmes. Quand on regarde l'écosystème polaire, on va avoir au final beaucoup d'écosystèmes, pardon, d'écosystèmes qui sont dominés par cétons roses, qui au final représentent différents types d'organismes gélatineux. Et en moyenne, sur l'écosystème polaire, on va avoir plus de 35% de la biomasse qui est composée de plancton gélatineux. De la même manière, quand on regarde le reste de l'écosystème mondial, on va avoir un écosystème qui, lui, encore une fois, est composé essentiellement d'organismes gélatineux, plus de 30% de la biomasse. Et ce qui est surtout frappant, c'est que quand on regarde tous les livres de cours sur l'océanologie, les écosystèmes principalement étudiés, ou en tout cas les organismes principalement étudiés, sont essentiellement considérés comme étant composés de diatomées, elles-mêmes mangées par des crustacés qui eux-mêmes vont nourrir les poissons. Quand on regarde la structure de cet écosystème, on se rend compte que l'écosystème ignoré, qui est à la fois composé de rizaires, mais de plancton gélatineux, concerne plus de 50% de la biomasse. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve à n'importe quelle latitude. C'est-à-dire que quand on regarde l'écosystème de manière fonctionnelle, en termes de pourcentage de biomasse, on va observer très peu de changements dans la latitude. On va avoir quelques types d'organismes qui vont être plus ou moins prépondérants dans les tropiques, tels que les violets, c'est-à-dire les cyanobactéries, ou les oranges, qui sont ici les rizaires. Mais en termes de proportion de gélatineux, on va avoir quelque chose qui va être relativement stable dans la latitude. Alors ça, c'est quelque chose qui, au final, permet de confirmer quelques observations existantes, des observations qui ont été faites à très large échelle, mais de manière, en récupérant différents sets de données qui peuvent être hétérogènes, telles que les études de Yinan Barhon en 2018 et 2019, qui montraient que les écosystèmes marins étaient dans l'ensemble relativement inversés, ou en tout cas en moyenne inversés. Ça confirme certaines observations faites par Trebilcho, qui parlait lui-même du paradoxe des forêts de kelp, ou encore confirme certains modèles qui prédisent un écosystème essentiellement à base de pyramides inversées, comparativement aux écosystèmes terrestres à base de pyramides à large base. Quelque chose qui est nouveau, par contre, c'est l'observation de ces organismes gélatineux qui permet au final de réconcilier les différentes approches. Tout simplement parce que les écosystèmes, les organismes gélatineux sont caractérisés par une très grande taille comparativement à leurs proies. C'est-à-dire qu'on va avoir affaire à des organismes qui vont avoir un ratio entre leur proie et eux-mêmes, qui vont être du même ordre de grandeur que les baleines ou d'autres types d'organismes. Donc, par exemple, ici, c'est une étude qui a montré que l'essentiel de ce plancton gélatineux filtreur, qui est ici, a une très grande différence de taille par rapport à leur proie, du même ordre de grandeur que celle des baleines, et peuvent en plus de cela filtrer énormément d'eau. Et donc ces observations nous permettent d'expliquer pourquoi, au final, ces écosystèmes gélatineux vont avoir cette pyramide inversée. Une autre observation que l'on a pu observer, c'est le fait qu'on va avoir un déphasage de quantité entre prédateurs et proies. Suivant la masse de proie totale. C'est-à-dire que quand on a des écosystèmes avec une très faible biomasse, on va avoir dans l'ensemble beaucoup plus de prédateurs que de proies, alors que quand on est dans des conditions très favorables, avec beaucoup de proies, la biomasse de prédateurs elle-même n'arrive pas à suivre la biomasse de proies. Donc on va avoir l'émergence de pyramides trophiques inversé, qui arrivent uniquement en condition de faible disponibilité de proie, alors qu'en condition de très forte disponibilité de proie, ce sont des pyramides inversées qui vont émerger. Et ça, c'est quelque chose qui semble être relativement universel, parce qu'on retrouve ce processus depuis les interactions entre les virus et leurs proies, qui sont les bactéries en milieu marin, jusqu'aux lions et aux antilopes dans les savanes africaines, où quand il y a très peu d'antilopes, on va avoir énormément de lions par rapport aux antilopes, alors que quand on a une énorme quantité d'antilopes, les lions n'arrivent pas à suivre. Et si on replace cette observation dans ce contexte, cette observation doit se situer tout à fait en haut à droite, c'est-à-dire que les deux observations peuvent être semblables. Et le fait que dans le milieu marin, tous les organismes sont relativement dilués permet d'expliquer aussi l'émergence de ces pyramides inversées. Enfin, pour finir, une chose que l'on a fait, c'est d'essayer d'étudier la composition de ces écosystèmes planctoniques. Et donc ça, c'est une analyse qui nous permet de séparer les différents sites, ici représentés par des points, en fonction de leur composition fonctionnelle. Et donc, on arrive à séparer l'écosystème qui est ici les différents écosystèmes dans un espèce de triangle qui vont soit regrouper des écosystèmes très dominés par des diatomées ou d'autres phytoplanctons qui vont avoir des pyramides inversées à large base. Et de l'autre côté, on va avoir soit des écosystèmes composés de rhizaires et de chétognathes et quelques crustacés de large taille, qui vont avoir une pyramide trophique très inversée. Et enfin, sur cette partie-là, des écosystèmes où on va avoir énormément de gélatineux carnivores ou énormément de gélatineux filtreurs. Ce qui est assez intéressant ici, c'est l'opposition entre certaines de ces flèches qui représentent le fait que, par exemple, quand on a beaucoup de gélatineux filtreurs, on va avoir très peu de phytoplancton. C'est-à-dire qu'au final, ce qu'on arrive à observer ici, ce sont des couples prédateurs-proies qui font que quand on a énormément de ces organismes-là, ils vont éliminer les autres organismes phytoplanctoniques. De la même manière, on va avoir les gélatineux carnivores qui se nourrissent essentiellement de copépodes qui vont se retrouver de manière inversée. Et ces différents écosystèmes peuvent être aussi caractérisés par leur environnement. Et on peut observer ici qu'on a l'essentiel de l'environnement qui représente un axe depuis le haut avec des températures importantes, beaucoup de lumière, donc un écosystème très tropical et très oligotrophique, avec des variables qui représentent la quantité de chlorophylle A, les flux de carbone vers les profondeurs ou la production primaire qui représentent au final des écosystèmes eutrophes. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le fait d'être gélatineux, c'est-à-dire d'être plutôt sur la droite de cette pyramide, n'est pas forcément corrélé avec l'environnement de manière très franche, mais comment dire, est une structure émergente de l'écosystème qui représente plutôt un écosystème plutôt stable où les prédateurs ont eu le temps de s'établir, tandis que les écosystèmes à large pyramide, à large base, vont représenter plutôt des instabilités locales, telles que des blooms printaniers de phytoplancton ou ce qui se passe dans des upwellings localisés. Et donc, on peut au final représenter ces trois types d'écosystèmes par leur composition, que ce soit en biovolume, en carbone ou même en ajoutant les bactéries qui ont été observées via un autre type de méthode. Et on se retrouve avec d'un côté un écosystème qui est plus ou moins conforme à ce qui existe dans la plupart des livres d'océanologie, avec beaucoup de diatomées qui nourrissent énormément de copépodes et très peu d'autres organismes, ces écosystèmes étant caractérisés par des flux de carbone très importants. On va ensuite avoir un écosystème qui est plutôt tropical, avec beaucoup de rhizaires, beaucoup de copépodes, mais aussi beaucoup de chétognathes. Et enfin, on a des écosystèmes gélatineux, à très large, à pyramide très inversée, qui, elles, vont être caractérisées par un transfert trophique important, mais également un transfert vertical important. Et donc tout ça, c'est pour vous montrer que ce plancton gélatineux, qui est ici représenté par les chétognathes, les gélatineux carnivores ou les filter feeders, est un écosystème qui peut représenter une contribution très importante de l'écosystème et qui jusqu'à présent était relativement négligé, tout simplement parce qu'on a affaire à des écosystèmes, à des organismes très larges, très fragiles aussi. Et tout ça nous montre au final que la chaîne trophique classique entre diatomées et copépodes est loin d'être la règle universelle. Donc pour conclure, ces échantillons et la campagne Tara Océan nous a permis pour la première fois d'obtenir une vue complète et homogène de l'écosystème planctonique qui nous permet d'étudier cinq ordres de grandeur de taille ensemble, en se focalisant à la fois sur leur abondance et leur biomasse. Et ça nous a permis de montrer à la fois une très forte importance du plancton gélatineux, associé avec des pyramides trophiques très inversées. Ça nous a permis aussi de montrer que l'occurrence de ces pyramides trophiques inversées était très prédominante, et que les pyramides avec une large base, étaient relativement rares en milieu marin. Ça existe, mais cela est relativement rare. Que ça peut être expliqué par, d'une part, un découplage de durée de vie entre prédateurs et proies, parce qu'au final, les proies dans l'écosystème marin planctonique sont petites, ont une durée de vie très rapide, et donc peuvent se renouveler continuellement et nourrir une biomasse importante de prédateurs. Et donc, évidemment, ces prédateurs, s'ils sont gélatineux, en plus de ça, peuvent court-circuiter une partie de la chaîne trophique. Et donc, cette importance du plancton gélatineux est d'autant plus importante parce qu'elle est associée dans certains cas de figure avec des écosystèmes oligotrophes qui sont censés être de plus en plus prépondérants dans le futur. Et donc, on ne sait pas si les écosystèmes du futur seront éventuellement plus gélatineux, mais en tout cas, on peut s'attendre à une augmentation éventuelle de ces pyramides inversées, si c'est le cas. Et sur ce, je voudrais remercier donc la Fondation Tara Océan qui nous a permis de participer à pas mal de campagnes. Ici, les données que je vous ai présentées sont issues de la campagne Tara Océan qui est ici représentée en vert, mais qui a permis l'émergence d'autres campagnes après celle-ci qui sont représentées par les différents points, dont la ligne orange qui est la campagne qui vient juste de commencer. Je vous remercie de votre attention.